Bonsoir. Je me disais, j'espère que je ne vexerai personne, surtout chez Mola, qu'il faut faire un livre pour retrouver ses amis bordelais de longue date, et j'en suis particulièrement heureux. Voilà. Donc, comme vous savez, j'ai commis un bouquin qui est là, à votre portée, et pour pouvoir en dire quelque chose de plus que le peu que j'ai dit, c'est-à-dire pas grand-chose, pour ne pas gâter le plaisir des images, j'ai demandé le concours de Christian Mériot, que sans doute vous connaissez, qui a été le patron de la section d'ethnologie à la fac de Bordeaux pendant de très longues années, et auprès duquel d'ailleurs j'ai travaillé un certain temps dans un cours optionnel. Alors nous avons combiné notre prestation d'une façon décontractée évidemment et si possible pas trop ennuyeuse, en lui demandant d'intervenir dès le début pour lancer un petit peu le débat et poser un certain nombre de questions à Paul Martineau, catalogué par Mola, photographe. Ce qui a été pour moi une grande surprise, vous vous en doutez bien. Voilà, donc je passe la parole à Christian Mériot, et bien sûr je le remercie beaucoup d'avoir accepté cette charge qui, somme toute, n'est pas aussi simple que ça. Lui, c'est un ethnologue pur et dur, et moi, un photographe amateur. Je te donne la parole.
Oui, il faut ajouter que je suis plutôt un ethnologue du Grand Nord et non pas de l'Afrique. Et comme toi, j'étais surpris de te voir baptisé photographe. C'était une qualité que je ne connaissais pas parmi tes nombreuses qualités, et je m'en réjouis d'avoir fait cette approche de toi nouvelle. Je te connaissais en tant que spécialiste de l'Afrique et spécialiste du Tchad et aussi du pays Sahara et de l'ethnopsychiatrie. Tu avais eu la gentillesse à l'époque de venir en faire bénéficier le département d'ethnologie anthropologie de l'université Victor Segalen, encore un avalet, un de plus, encore un voyageur, un ethnologue, un médecin, donc quelqu'un qui était encore, qui a été assez proche. Et tu as créé et tu as conduit un enseignement important de psychiatrie, d'ethnopsychiatrie, en complicité avec ton ami le docteur Simon. Et je pense que les étudiants qui ont assisté à des cours, à vos cours, ont gardé un souvenir particulièrement intéressant et ils n'ont pas oublié. Je suis persuadé par ailleurs que ta personne, que les personnes ici présentes, attirées par le beau livre de photos que tu as publié hier, voudraient mieux te connaître. Alors pourrais-tu nous dire quelques mots sur ton parcours personnel, en commençant peut-être par tes études à Bordeaux, à la Victoire, où tu as fini après à Bordeaux en tant que praticien psychanalyste, après avoir été jeune officier de la coloniale en œuvre de médecine de brousse à Kélo, en pays Sahara, où tu avais été parachuté, puis surtout comme hospitalier après à Fan, à Dakar, avec le professeur Henri Collomb, qui t'a beaucoup apporté, qui t'a mis sur la voie.
Oui, mine de rien, là, il s'agirait pratiquement de faire une sorte de confession publique sur qui je suis, d'où je viens, etc., etc., si j'ai bien compris. Alors, je resterai sur l'essentiel, quand même.
Une petite biographie.
Une petite biographie, très brève. Dans cette biographie très brève, il est vrai que certains points émergent qui, pour moi, sont primordiaux. D'abord, je viens de loin, c'est-à-dire d'Outre-Alpes, par ma famille, bien sûr. Et puis, un beau jour, je suis devenu élève de l'école de santé navale. Et là, je suis obligé de le dire avec beaucoup d'émotion. Si je suis là aujourd'hui, c'est bien pour dire un merci et rendre un grand hommage de tout mon cœur à l'école de santé navale qui a fait que j'ai connu non seulement et appris mon métier de médecin, mais où je suis allé en Afrique et où j'ai évidemment eu l'occasion de faire les photos qui ont contribué à faire ce livre. C'est donc un des points essentiels de mon histoire. Le reste a beaucoup moins d'importance. Rapidement, je peux dire que lorsque je suis parti là-bas, au Tchad, c'était mon premier séjour de médecin, on peut dire, de brousse. J'avais 25-26 ans. Je venais de me marier et je débarquais dans un univers complètement extravagant, pour ne pas dire extraordinaire, dans un pays de brousse où il n'y avait rien, si ce n'est évidemment beaucoup de monde à soigner. J'étais responsable d'un secteur où il y avait 130 000 habitants et j'étais seul médecin. Donc vous imaginez, dans la mesure où je faisais tout, la médecine, la chirurgie, l'obstétrique, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Sauf de l'ethnologie, mon cher confrère, à ce moment-là, et des photos de temps en temps. Voilà. Donc j'étais médecin de brousse pendant environ 3 ans. Et c'est là où mon fils est né quand même. J'ai fait un petit là-bas avec Anne, ma femme, et les choses se sont pour nous très bien passées. Mais pour qu'on n'oublie pas que c'était quand même un lieu un peu compliqué, mon successeur y a perdu 2 enfants nouveau-nés. Ce n'était pas une brousse forcément totalement sympathique sur ce plan-là. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question ou est-ce que ce n'est pas suffisant ?
Oui, tu pourrais finir sur ton parcours à Bordeaux après. Hein.
Voilà. Donc, c'était vraiment un baptême du feu, si on peut dire. Je passe sur des détails, enfin, les moustiques, la rage, enfin, tout était là. Il y avait tout ce qu'il fallait pour être bien tranquille, mais nous sommes passés à travers. Et bien que n'ayant pas fait d'ethnologie à ce moment-là, je pense que c'est grâce à ce premier séjour que je m'y suis vraiment intéressé et que, 2 ans plus tard, je partais à Dakar, appelé par Henri Collomb, qui était aussi un ancien Navalais, sans doute que des Navalais présents le savent, qui était professeur agrégé de neuropsychiatrie. Et j'ai travaillé pendant 6 ans à Fan. Et là, pour le coup, passant d'un extrême à l'autre, je suis passé des images sans légende, comme dans le livre, à des travaux très approfondis d'ethnopsychiatrie. En tous les cas, je découvrais là, avec Collomb et ses adjoints, une équipe multidisciplinaire, psychologue, psychanalyste, ethnologue, sociologue, je découvrais véritablement ce qui est le plus important pour nous toujours, c'est-à-dire la dimension culturelle de la maladie mentale, chose que nous ignorions totalement, de la même façon que, je dois bien le dire, je n'accuserai personne, c'est que on nous balançait comme ça au bout du monde avec des connaissances médicales très pointues. On savait tout sur les pathologies tropicales, mais on n'avait pas la moindre idée de qui on allait rencontrer, qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils parlaient, quelles étaient leurs coutumes. C'était à nous de le découvrir sur le tas. Voilà. Donc, j'ai passé 6 années à Dakar, où on a beaucoup travaillé, beaucoup écrit, beaucoup publié. Et puis, j'ai eu vraiment envie de rentrer. J'avais envie de me perfectionner, en particulier en psychanalyse. Et je suis venu m'installer à Bordeaux, où j'ai passé environ 35 ans de travail, où je travaillais un peu à l'hôpital, je travaillais chez moi, je travaillais dans des établissements. D'ailleurs, il y a d'ici l'ancienne directrice d'un établissement où j'ai travaillé, une psychologue aussi. Bref, j'ai travaillé à l'hôpital avec Jean Rivière, etc. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je faisais un cours à la fac sous l'égide de Christian Mériot. Voilà mon parcours. Et puis un beau jour, j'avais quand même 72 ans, je me suis dit, est-ce qu'enfin je vais pouvoir faire la preuve à moi-même que je peux vivre sans travailler ? Alors, j'ai quitté Bordeaux, je me suis réfugié dans le sud-est, et de temps en temps, je viens rendre visite à mes terres d'autrefois et à mes amis qui sont là ce soir en assez grand nombre. Mais ils ne sont pas tous là. Et ça me pose un problème.
Voilà. Merci voilà. Paul. En second lieu, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment t'es venu sur le terrain cette envie de photographier ton environnement, comment tu t'y es préparé et avec quels instruments de l'époque, et ensuite comment 60 ans après, tu as réussi à rassembler ces photos, ce que l'influence, pour en faire ce très beau livre.
Oui, sur la première partie de ta question, c'est un peu compliqué. J'aimais faire de la photo déjà autrefois, c'est vrai. Mais j'ai eu la chance de rencontrer de près, pas loin de chez moi, à Mundu, au chef-lieu de région, René Huette, qui était aussi un ancien Navalais, bien sûr, qui était un chirurgien remarquable et en même temps un grand artiste, peintre, sculpteur, photographe. Et il m'a donné envie et il m'a initié à la photo au point que, lorsque j'ai eu la chance d'avoir de l'électricité, lorsque j'ai eu un groupe électrogène, je me suis mis à faire de la photo en noir et blanc, avant ensuite de faire de la photo avec des diapositives et d'aboutir à ce petit rassemblement de clichés qui sont là. J'avais donc fait des photos, mais au hasard des rencontres, par hasard, je n'étais pas ethnologue, j'avais de quoi faire. Et puis j'avais gardé ça dans des cartons, dans des boîtes, etc. Et puis, les Navalais sont toujours là quelque part. L'un de nous, un bien plus jeune, Francis Louis, a eu l'idée de poursuivre une œuvre commencée avant lui par un plus ancien et de créer le troisième et puis le quatrième tome d'un volume qui s'appelle « Sillage et feu de brousse » qui sont des recueils de textes fournis par des camarades comme moi et qui ont travaillé en Afrique, en Asie, un peu partout. Et Francis Louis, donc, un beau jour, a fait savoir qu'il voulait faire le quatrième volume. Et il a lancé le message. Alors, je l'ai contacté et je lui ai proposé des textes et des photos. Alors, il a, j'allais dire, sauté dessus avec gourmandise et il m'a demandé à lui montrer mes photos. C'est ce que j'ai fait. Alors, aussitôt, il m'a dit, mais ces photos, là, qu'est-ce que tu en fais là? Elles sont où? Ben, elles sont là, dans des boîtes, mais enfin, tu te rends pas compte, etc., etc. C'est honteux. Il m'a engueulé, pratiquement. Et il m'a dit, écoute, si tu es d'accord, on va en faire quelque chose. On va essayer d'en faire un livre. J'ai dit oui, d'accord. Et il m'a mis en relation avec l'imprimeur qui avait édité le quatrième volume de « Sillage et feu de brousse ». Nous nous sommes rencontrés, et là, d'une manière tout à fait naturelle et passionnée, je dirais, eux, passionnés de photographie, ils se sont emparés de mes photos, ils les ont examinées, etc., ils les ont préparées à la numérisation, et un beau jour, on a fait ce livre-là, qui, au dire des gens qui s'y connaissent un peu, est assez réussi, je dois dire, sur le plan de la photo au moins. Si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas encore, vous serez peut-être surpris de voir qu'il n'y a aucun texte. Autant je peux être bavard, moi, en public, autant là, je tenais absolument à ne pas mélanger les genres. J'ai fait des photos, un point, c'est tout. On les regarde, on les aime, on rêve avec. On essaie d'y lire quelque chose, c'est-à-dire ce message de proximité que j'ai perçu, moi, dans ma relation avec les gens. Et puis, pour les textes ethnologiques, on s'adresse à d'autres, et en particulier, je viens de découvrir un bouquin fantastique qui a été fait par un autre Christian, Seignobos, qui a vécu pendant 40 à 50 ans au Tchad, et qui vient de sortir un pavé absolument remarquable. Il n'y a pas une photo, mais uniquement des dessins à la plume, d'une grande beauté. Voilà un peu comment les choses se sont passées, et du coup, l'éditeur Loïc Camani et le graphiste Thierry Perron ont pensé que mon livre-là pouvait être le premier d'une série. Faisant confiance aux camarades, j'allais dire syndiqués de Santé Navale, qui auraient chez eux, comme ça dans les tiroirs, des réserves de photos pour éditer d'autres livres dans la même ligne. Voilà, est-ce que j'ai bien répondu?
Oui, merci. Encore une dernière question personnelle. Pour en revenir à Kello, en pays Sahara, donc au sud du Tchad, où il y a environ 2 millions d'habitants, Sahara. Les Sahara, paraît-il, viennent au XVIe siècle de Nubie et ils seraient les fils de Ra. Mais ça, ce sont des histoires d'ethnologues, pas trop y croire. Est-ce que tu peux maintenant nous présenter ces habitants et leur pays dans leur généralité et nous en dire plus sur la façon dont tu as découvert en 58 sur place ces gens-là, si beaux à les voir dans tes photos, tes impressions et en bref nous présenter un petit tableau de ta vie sur place telle qu'elle te fut imposée et telle que tu l'as vécue. Tu en dis quelques mots, mais tu peux en dire un peu plus, de tes préoccupations, de tes investissements dans la vie locale, tant sur le plan professionnel que sur le plan administratif ou social de l'époque, sans oublier, bien sûr, si je peux en parler, si tu peux en parler, de tes amours bien légitimes avec Agathe. Je vous réserve la surprise.
Oui, tu me demandes là beaucoup de choses, quand même. Je ne sais pas si j'y arriverai. Quand je suis arrivé à Kélo, j'avais donc 25-26 ans, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout jeune marié, je ne connaissais rien de l'Afrique noire. Pourtant, j'avais déjà quand même quelque chose en moi qui m'attirait. Parce que, en sortant de l'école de santé navale, mon premier travail de médecin militaire, parce que j'étais militaire, c'était l'Afrique du Nord. À l'époque, il y avait la guerre en Afrique du Nord. Et on m'avait affecté au 2e bataillon du 6e RTS, c'est-à-dire 6e régiment de tirailleurs sénégalais. On ne pouvait pas mieux faire pour me mettre tout de suite dans le bain. Voilà. Donc j'ai été confronté à la sénégalité, disons à l'africanitude, on pourrait dire aujourd'hui, pratiquement dès la sortie de l'école. Et je m'y suis trouvé bien. Et je rappelle quand même que lorsque j'ai fait santé navale, nous étions tous logés à la même enseigne. Il y avait un choix à faire. La marine ou la colo, on disait. Moi, j'étais venu pour la colo. Quelques années auparavant encore, les meilleurs choisissaient la marine. C'était une sorte de promotion de haut niveau. Et quand j'y étais, c'était un peu le contraire. Les meilleurs choisissaient la colo. Bon, je rougis. Très bien. Donc voilà comment je suis arrivé à Kélo, avec cette envie d'en connaître un peu plus. Mais évidemment, je ne m'attendais pas du tout à découvrir ce que j'ai découvert. Par exemple, vous le voyez dans les photos, vous allez le voir, la nudité était la chose la plus banale du monde. Dans toute sa splendeur, les corps étaient merveilleux et ils étaient d'autant plus beaux à voir qu'ils étaient nus. Sans aucune arrière-pensée tordue, bien sûr. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais là où j'étais, il n'y avait pas que des Tchadiens, il y avait aussi quelques Blancs, quelques Toubabs. La vie de brousse à l'époque, je ne suis sûrement pas le seul à l'avoir vécu, ça se résumait à peu près à ça. Il y avait un administrateur qui venait de la France d'outre-mer, ça s'appelait comme ça, la FOM. Il y avait un gendarme, en général, avec femmes et enfants. Il y avait un missionnaire, au moins un. Il y avait la mission catholique et la mission protestante. Un agent de l'agriculture. Et puis, les responsables de la coton franc. Parce que le Tchad, comme au Sénégal, il y a eu l'arachide, vous savez, les cultures coloniales obligées. Là, c'était le coton. Il y avait beaucoup de coton et une usine de coton. Donc, pour aller vite, il y avait à peu près une quinzaine de Blancs qui étaient là, en bonne santé, je dois dire quand même, mais qui auraient pu constituer une préoccupation supplémentaire. Ça s'est produit quelquefois, que des enfants tout petits soient malades et qu'il faille vraiment les surveiller de très près. Je disais tout à l'heure que mon confrère qui m'a remplacé a perdu malgré tout 2 enfants là, pour des maladies endémiques, le paludisme en particulier, qui était particulièrement redoutable. Mais il n'y avait pas que le paludisme, d'ailleurs. D'ailleurs, je vous raconte une anecdote, quand même, que j'ai écrite quelque part, comme ça. J'étais rentré depuis une vingtaine d'années au moins, Et un soir, quelqu'un sonne à ma porte, là, à mon cabinet, 15 boulevard Georges V. Je réponds, il faisait nuit. Je dis oui. Alors on me dit, je suis monsieur machin. Je suis un de vos anciens malades de Kélo. Et comme je sais que vous habitez là, je suis venu vous rendre visite. Alors, j'ouvre la porte et je me trouve devant un gars qui devait faire pas loin de 2 mètres, noir comme l'encre, vêtu comme un ministre. Et je suis ébahi, quoi. Alors, il entre et il me dit, vous m'avez sauvé la vie 2 fois. Et il me raconte, j'avais 11 ans, la première fois, j'avais été piqué par le serpent qui tue, les kiss. Vous êtes venu me chercher dans la brousse. Et vous m'avez fait la piqûre, vous m'avez sauvé la vie. La 2e fois, vous m'avez hospitalisé. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'était l'hôpital. J'avais une maladie du ventre et vous m'avez guéri. Et votre femme venait m'apporter des oranges. Voilà une anecdote pour situer un peu où nous étions. Voilà. Bref, malgré tout, cette petite communauté, à mon avis, après coup, constituait une entité un peu fermé, qui n'ouvrait pas tellement vers la connaissance profonde des gens. Il y avait quand même une sorte de coque qui nous enfermait. À travers des rituels, on parle des rituels des Tchadiens ou des Sénégalais, mais là, le rite, c'était quoi? C'était que pratiquement tous les soirs, il y avait la partie de boule quelque part. Ou alors, le repas, chez l'un, chez l'autre, tout le temps. La moindre fête était l'occasion de... Moi, j'en avais ras-le-bol de ça, mais n'empêche que... Je suis mis le moment, c'est-à-dire que cette coquille nous séparait un peu des autres, finalement, en général. Il y avait même une catégorie de blancs qu'on appelait les petits blancs, qui étaient réellement en marge et en bordure. Je ne dis pas que j'ai vécu comme ça, puisque j'avais, moi, la chance d'avoir une équipe d'infirmiers dans cet hôpital, ce centre médical, avec lesquels j'avais très, très bonnes relations, et j'étais quand même assez près d'eux. Maintenant, quand je dis « eux », je rejoins peut-être ta question, il ne faut pas croire que, comme si on va en Bretagne, il y a des Bretons, quoi. Si on va en Corse, il y a des Corses. Là où j'étais, on dit les Sahras. En réalité, il y a une infinité de sous-ethnies. Je serais même incapable de les nommer toutes. Les Lélé, les Mesbé, les Ngambay, les Nancheré, enfin, les Bananas, finalement, dont... je parlerai peut-être un peu tout à l'heure, et qui sont ceux que j'ai le plus photographiés. Donc il y avait une multitude de gens d'ethnies différentes, parlant toutes des langues différentes, et évidemment la relation ne pouvait passer que par un interprète. L'interprète, pour moi, c'était Antoine Maïbé, qui n'était pas infirmier, qui n'était même pas aide-infirmier, mais qui faisait un peu comme s'il était infirmier, et avec lequel j'avais une relation tout à fait merveilleuse. Encore une anecdote, je peux, docteur?
Oui.
Quand j'étais à Dakar, donc bien des années plus tard, dans le service du professeur Colomb, dont Christian Mériot a parlé, nous avons fait une expérience intéressante. Henri Colomb est un homme très entreprenant, très intrépide, très entraînant, vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Et en plus... il pilotait un petit avion, avec un moteur, mais enfin, qui volait. Et j'ai même été son premier passager quand il a eu l'autorisation de voler. Et pour me faire la démonstration, il m'avait emmené raser les cornes des bœufs du côté de Caillard ou les vagues sur la mer. Voilà Colomb. Et un jour, il avait pris la décision... d'aller rendre visite aux frontières du Tchad, au Cameroun, à des fêtes traditionnelles, des fêtes rituelles extraordinaires, en compagnie d'un ethnologue qui s'appelle Zampleni, Andras Zampleni, et d'une psychologue, Simone Valentin. Nous étions 4 dans ce petit avion. Je raconte un peu parce que c'est amusant quand même. J'espère que ça vous amuse en tous les cas. Un tout petit avion, 4 dans ce petit avion. Colomb pilotait bien, mais il était quand même un peu anxieux. Et dès notre premier atterrissage, on a perdu l'une des antennes, la HF. Alors il ne restait que la VHF. Alors comme j'étais le copilote, on pilotait à vue quand même. Bref, on est donc arrivé à Fort-Lamy. On a failli être jeté en prison parce que Colomb, avec des habitudes anciennes un peu dépassées, faisait comme ça. Il disait à la secrétaire, vous téléphonez, vous dites que j'arrive. Alors là, on a été reçu par les militaires. Ils nous ont dit, vous faites le plein et vous partez. Il se trouve que, à ce moment-là, celui qui avait été l'administrateur de la FOM de Kélo, Jean Massieu, était conseiller auprès de Tom Balbaï, qui était le nouveau président, le premier grand président du Tchad. Alors, je suis allé le rencontrer, il m'a dit, mais vous êtes fou, vous ne vous rendez pas compte, vous risquez la prison, tout ça. Toutefois, me dit-il, le ministre des pistes, des routes, c'est un tel qui est le fils d'un chef de canton que tu as connu quand tu étais à Kélo. Tu peux toujours essayer. Alors je téléphone au ministre, on était évidemment au Tchad. Je tombe sur une secrétaire française qui me dit « je vais voir ». Elle revient, elle me dit « si c'est pour lui parler de cette malheureuse affaire du professeur Colomb, c'est pas la peine d'insister, il ne vous recevra pas ». Je lui dis « mais madame, c'est pas du tout pour ça que j'appelle. J'ai été médecin à Kélo en telle année, j'ai bien connu le père du ministre, je suis là, j'aimerais venir le saluer ». Alors elle va voir, elle vient me dire « ah, si c'est pour ça, venez ». Je suis donc allé voir le ministre, on a bavardé de choses et de tout, et de rien. Après il me dit « allez, je vous donne l'autorisation ». Et nous sommes partis à Pala. Pala, c'est à une centaine de kilomètres de Kélo. Pourquoi je vous raconte tout ça, vous allez voir. Alors à Pala, j'ai dit « moi ce que je veux », je dis à Colomb, « moi ce que je veux, c'est aller à Kélo ». Il n'était pas très content. Enfin, il m'a quand même autorisé. Je suis allé voir les infirmiers des grandes endémies qui m'ont prêté une Land Rover. Et me voilà tout seul sur la piste comme autrefois. Et j'arrive à Kélo, près de l'hôpital, entre guillemets l'hôpital. Et qui je vois, Antoine, qui était là avec sa petite blouse blanche. Et puis un petit plateau en fer blanc émaillé avec un peu de mercurochrome. Il allait vers les cases du fond où il y avait certainement quelques éclopés. Il entend le bruit de la voiture, il se retourne, il dit « Papa !» Voilà, c'est pour vous dire comment c'était les relations.
Merci de tous ces détails qui sont très intéressants et très vivants, et on participe un peu de ta vie là-bas. Maintenant, camarade, il est temps d'en venir aux photos.
Alors, ce que je n'ai pas dit, justement, mais puisque tu parles de photos, je vais le dire, c'est que... Au début, je faisais des photos avec un petit Foca. Et un jour, je ne sais plus comment, j'ai acheté un appareil que je considérais comme merveilleux. C'était un réflexe. C'était le premier réflexe de ma vie, évidemment, qui s'appelait Exacta Varex 2A. Fabriqué en Allemagne de l'Est. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait des diapositives. Au début, le noir et blanc, je le faisais moi-même. Je développais les films et ensuite je les agrandissais avec... Je vous ai raconté que j'ai eu un groupe électrogène à un moment. J'ai eu un groupe électrogène, ça a été magique. Pourquoi ? Parce qu'un jour, Lisette était passée rendre visite et il m'avait demandé « Docteur, ça va ?» J'ai dit « Oui, mais pas de lumière. » Et dans les jours qui ont suivi, il y a une camionnette qui est arrivée avec un groupe électrogène. Incroyable. Alors à partir de là, je me suis mis à faire de la photo. Et après, quand j'ai fait des diapos, peut-être que certains d'entre vous l'ont connu comme moi, on envoyait les bobines à Sevran. Et puis, un certain temps après, on recevait la petite boîte jaune avec les diapos. Et c'est de ces petites boîtes jaunes qu'on a fait le livre qui est là. Voilà. Alors, je n'ai pas répondu à ta question.
Et on va y venir. On va y répondre. Maintenant, on va, grâce à ton appareil, à ta... Nous allons regarder défiler les photos que tu as choisi de nous montrer et je laisserai aux spécialistes de la chose le soin d'en souligner le caractère proprement esthétique pour nous concentrer plutôt sur tous les aspects humains qui en ressortent. Bien sûr, le public est invité à intervenir en toute liberté pour faire part de ses remarques et de ses questions. Donc, en route vers une époque encore si proche pour nous, jeunes retraités, et néanmoins révolu. En route vers cette seconde patrie pour toi, et puisqu'on parle de patrie et qu'on est entre un peu universitaire, pourquoi ne pas songer ici à Ernest Psychari, qui, comme toi, fut officier de troupes coloniales, qui, comme toi, avait passé avant 14 au Tchad, et à qui on doit ce propos dans « Terre de sommeil et de soleil », où il écrivait « N'est-ce pas une patrie, en effet, la terre où nous avons laissé un peu de nous-mêmes et où un peu de beauté nouvelle nous est venue ?» Et il ajoutait « Toutes les patries sont belles pour un cœur chaleureux et pour les yeux aimants. Et quant à moi, je suis sûr que tu vas nous montrer combien chaleureux est ton cœur et combien aimant sont tes yeux. » À toi, camarade.
C'est très beau, c'est émouvant en tous les cas. Il est mort jeune, je crois, à 30 ans, il est mort à la guerre, ce Psychary. C'est terrible. Hein. Mais vous avez remarqué que je parle beaucoup. Enfin, je sais pas, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais j'ai oublié un peu quelque chose avant de venir sur son problème. C'est de bien souligner quand même ce que c'était que la vie, j'allais dire, d'un moussaillon comme nous étions en pleine brousse africaine. Ça semblait aller de soi, mais c'était quand même pas de la tarte, quand même. Hein ? On n'avait rien, vraiment. On avait, je l'ai dit, pas d'eau, pas d'électricité, rien, pas de téléphone. C'est pour ça que quand un groupe électrogène arrive, alors là, c'est vraiment, l'euphorie absolue. Évidemment, ce n'était pas fait pour moi seulement, c'était fait aussi pour le centre médical. Et deuxième miracle, c'est quand Tom Balbaï est passé, il est venu faire un tour. Pareil, on a pris un pot chez l'administrateur. Et pareil, on a dû me poser la question, alors docteur, comment ça va ? Ben, j'ai dit, ça va, maintenant que j'ai un groupe électrogène, si j'avais un appareil radio, alors là, ce serait fabuleux. Et une semaine après, il y a une camionnette qui arrive avec un appareil de radio. Tout petit, hein. 5 kVA, je crois que ça faisait. Tout petit, un truc de campagne. Alors évidemment, je l'ai installé et je m'en suis servi. Pendant les quelques mois qui me restaient, je m'en suis servi. Mais un jour, dans le train qui m'amenait de Marseille à Bordeaux pour une des grandes fêtes de Bordeaux, des Navalets, je rencontre... J'ai raconté cette histoire déjà souvent parce qu'elle me paraît assez intéressante. Parlante en tous les cas, je rencontre le colonel Martin, qui avait été un de nos professeurs au Pharo. Il me dit « Ah, Martineau, on a bien rigolé quand on a feuilleté votre carnet militaire, quand vous avez passé la Sistana. » Ah bon ? Ah ben, c'était écrit en rouge. Sur une page, il y avait écrit « Il s'est débrouillé par ses relations personnelles pour obtenir un appareil de radio pour son centre médical. » Oh, formidable. On tourne la page au détriment d'un camarade du Nord qui en a été ainsi frustré. Enquête faite, puis je m'arrêterai sur les anecdotes. René Huette a su pourquoi. Le camarade du Nord, il n'avait pas d'électricité. Je tiens absolument à vous remercier d'être venu, pas forcément pour que vous achetiez le bouquin, mais que vous ayez répondu à cet appel, parce que je le vis comme vraiment une preuve d'amitié. Voilà. Et pour moi, c'est très, très, très important, depuis 2 ans surtout.